Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous êtes en direct de la Forêt des Possibles de 19h à 20h. Nous sommes le mercredi 5 février et vous pourrez retrouver la diffusion de cette émission demain à 10h et sur Spotify. Chères auditrices, chers auditeurs, chaque semaine nous recevons celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales. Ils et elles tissent l'harmonie entre les besoins humains et les ressources de la planète, à Marseille et ses alentours. Et on l'aperçoit, cet Éden, cette société résiliente, créative et solidaire. Je ne vous cache pas que la fenêtre est de plus en plus étroite, mais on l'aperçoit et par ici, on l'appréhende. Et même si la réalité nous fait défaut, si chaque jour une nouvelle enclume nous tombe dessus, nous ne courbons pas les chines. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous et malgré une actualité mondiale dont on n'a plus bien les mots pour la décrire, l'équipe de la Forêt des Possibles garde l'espoir, enfin j'espère. Comment ça va, Elissa ?
Ça va tranquille. Pas d'enclume sur ma tête aujourd'hui.
Mathieu ?
Eh bien écoute, ça va très bien moi aujourd'hui.
Et en régie, Félix ?
Eh bien ça va, merci.
Marin ?
Bonsoir et superbe introduction.
Et Claire ?
Bonsoir, ça va super, merci.
Merci à vous, beaucoup de monde autour de la table ce soir, merci pour votre énergie. En ce 5 février, soyons ensemble une fenêtre sur les projets qui changent les choses et qui sont là pour nourrir nos espoirs et notre optimisme. Une fenêtre sur la forêt, c'est rare, ou alors c'est peut-être moi qui perds dans les métaphores, je suis désolée, enfin vous savez qu'ici on aime bien la métaphore de la forêt. Cette forêt, elle est là, elle est à ce micro, chaque semaine, elle est connectée par la racine, par la canopée, par son mycélium et par tous les nutriments qui font son sol fertile. Un sol fertile au service de l'économie circulaire des territoires, c'est la promesse d'Eotil, entreprise marseillaise qui transforme nos urines en engrais bas carbone. Je m'appelle Jeanne Ray et ce soir avec nous Emmanuel Morin.
Bonjour.
Et Stéphane de la Croix de la Valette.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux, merci d'être à ce micro. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes en forme ce soir ?
Oh bah ouais, carrément.
Oui, très en forme, oui.
Vous le savez peut-être, sur l'émission de la Forêt des Possibles, on aime bien travailler à partir de l'individuel pour aller derrière vers le tout, du moi au nous et du nous au tout. Vous travaillez donc pour l'entreprise Eotil. Est-ce que, avant de présenter un petit peu l'entreprise et son objet, vous pourriez présenter un peu votre parcours ? Ici, on aime bien collecter du récit et des trajectoires individuelles des gens qui passent à l'action. C'est votre cas, vous êtes tous les deux passés à l'action en créant ce projet. Quels sont un peu vos parcours personnels ? Comment vous vous êtes rencontrés ?
Vas-y, Emmanuel.
Moi, je m'appelle Emmanuel. Je suis de formation ingénieur. J'ai fait une grande école parisienne. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler dans ma carrière professionnelle dans des grosses multinationales de l'emballage essentiellement. Et au bout d'un moment, après des parcours un peu chaotiques, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des projets qui aient plus de sens pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde des toilettes sèches. J'ai commencé à travailler dans ce monde-là. J'ai encore eu une séparation difficile avec mon employeur. J'ai décidé que c'était un peu suffisant. Et donc, j'ai créé en 2009 une société qui s'appelle Ecodoméo et qui fabrique ce qu'on appelle des toilettes sèches à séparation, qui sont assez modernes, qui s'utilisent sans sûre et que j'installe un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Et puis, avec cette entreprise, je me suis rendu compte que les toilettes sèches, c'était bien. Ça permettait d'économiser de l'eau. Ça permettait aussi d'avoir des solutions alternatives aux toilettes à eau, parce que mettre de l'eau potable dans ces toilettes, c'est quand même pas toujours très satisfaisant. Et on avait un gros problème, c'est qu'on savait quoi faire avec les matières solides, et puis les matières liquides qui sont essentiellement les urines, on n'avait pas trop de solutions. Je me posais les questions, et c'était des sujets beaucoup plus compliqués, il fallait connaître un peu l'agronomie, la biochimie, etc. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane, qui va se présenter.
Stéphane, donc moi je suis formation ingénieur, mais plutôt agronome, donc plutôt organisé vers les sciences du vivant. J'ai essayé pas mal de choses dans l'agronomie et je me suis un moment spécialisé dans tout ce qui était technologie de l'information pour l'agronomie, ce qui m'a conduit à aller produire un système d'information sur la production de bananes en Afrique. Et donc du coup j'avais beaucoup d'allers-retours en Afrique, beaucoup d'avions, et j'ai fini par me poser la question un peu de quel est mon impact en fait, à titre personnel, puis même au titre de qu'est-ce que je fais dans la société dans laquelle je suis et où est-ce que je peux servir à quelque chose. Et c'est vrai que bah, du coup, il y a eu la rencontre avec Emmanuel. On a un peu discuté autour de ces sujets-là. Et moi, je pense que j'avais fait un peu aussi le tour de la question techno. Et je voulais aller vers quelque chose d'un petit peu moins techno, mais plus bah, terre à terre. Et en fait, bah, c'est un peu de là que tout est parti. Quoi. On a discuté de qu'est-ce qu'on peut faire de nos urines. Parce que finalement, quand on regarde un peu de quoi c'est constitué, bah, on retrouve la même chose que dans les engrais. Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent d'aller de ces urines qui sont un peu un déchet aujourd'hui pour nous? Et est-ce que c'est un intérêt de les traiter? Ou est-ce que finalement, on ne va pas rajouter de la complexité à un système déjà complexe? Et puis, ben, j'ai pris quoi, un mois ou deux pour bien réfléchir à ma décision de quitter un emploi stable, facile, et de me lancer. Et puis, ben, 6 mois après, j'avais quitté mon employeur en bon terme, pour le compte, contrairement à Emmanuel. Et puis, ouais, l'aventure a démarré comme ça en janvier 2023.
Ok. Et ouais, janvier 2023 déjà. Et donc la complémentarité de vos deux profils a permis un peu de faire émerger cette idée, cette entreprise qui est utile, qui dont la promesse est donc de transformer, si j'ai bien compris, les urines en engrais écologiques par un procédé innovant. Ça vous place à ce titre dans l'économie circulaire, donc ça rentre complètement dans le mandat de notre émission. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur exactement l'activité finalement et utile, ça résout quel genre de problème dans la société?
Alors, pour moi, on s'attaque à trois grands sujets de base. Après, nous, on s'amuse à en rajouter d'autres parce que sinon, on se fait pas assez. Le premier sujet, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est la consommation d'eau potable dans notre chasse d'eau. En fait, on nous dit tous les ans, tous les étés, qu'on consomme trop d'eau, qu'on n'a plus assez d'eau disponible, que s'il y a un feu de forêt, ben, ça va être compliqué, etc. Et au final, ben, un de nos plus gros postes de consommation à titre individuel, c'est la chasse d'eau. Donc si on peut déjà contribuer à réduire cet aspect-là, c'est pour nous déjà un premier pas. Le deuxième aspect, c'est la production d'engrais. Aujourd'hui, la production d'engrais, alors on le sait assez peu, mais il y a deux éléments principaux dans les engrais qui sont l'azote et le phosphore. L'azote, en fait, c'est 80% de l'air qu'on respire. Donc finalement, c'est une ressource qui semble assez accessible. Mais pour le rendre accessible à la plante, ben, il faut passer de cette forme gazeuse qui est autour de nous à une forme accessible à la plante, donc soit solide, soit liquide. Et le procédé qui existe pour transformer ce gaz, c'est le procédé Haber-Bosch. Donc c'est un procédé qui a été développé au 18e, 20e ? Ah ouais, c'est tard. Au 20e siècle, et qui est extrêmement consommateur d'énergie et notamment de gaz, donc de gaz... du gaz que nous on utilise aussi pour cuire les aliments, pour ces trucs-là, quoi. Donc c'est une grosse consommation et une grosse production de gaz à effet de serre. Et en fait, nous, l'idée, c'est de dire, ben, cette grosse consommation, ben, on peut essayer de l'éviter en récupérant des nutriments qui sont déjà présents parce qu'on les produit nous-mêmes naturellement. Et en plus, ça permet d'avoir une production plus locale, plus localisée, parce qu'aujourd'hui, on a concentré ces usines pour en faire des grosses usines pour réduire les coûts, pour optimiser tout ça. Et ben nous, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, à échelle très locale, on peut reproduire un engrais qui sera accessible localement. Voilà. Et le dernier aspect, donc le troisième aspect sur lequel on a un intérêt à traiter un problème, c'est l'assainissement. En fait, quand on tire la chasse d'eau, bah, on a un déchet qui part, et à partir de là, nous, on l'oublie. Et nous, ce qu'on a remarqué en creusant un petit peu sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, quand ça arrive à la station d'épuration, bah, la station d'épuration, elle a du taf, quoi. Il y a énormément de choses qui arrivent, alors que ce soit les résidus de nous, individus, mais aussi les résidus des industries, les résidus des entreprises, l'eau de pluie, le machin. Enfin, il y a un peu de tout qui va se mélanger et ça fait beaucoup à traiter. Et quand on regarde dans le détail... Ce qui coûte extrêmement cher à la station d'épuration, c'est le traitement de l'azote et du phosphore. Tiens, on les retrouve ces deux-là. Et quand nous, on a étudié un peu le truc, on a vu que c'était quasiment juste l'azote et le phosphore, quasiment 70% des coûts de traitement de la station d'épuration. Et en creusant encore, on s'est rendu compte que l'azote vient à plus de 80% des urines et le phosphore à plus de 60% des urines. Donc en fait, juste avec les urines, si on retire les urines des stations d'épuration, on allège considérablement l'énergie utilisée par la station d'épuration et on allège aussi les rejets qu'il y a à la mer, ou enfin à la rivière qui elle-même va aller dans le fleuve, qui lui-même va aller à la rivière, enfin à la mer, pardon. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant parce qu'on entend aussi beaucoup parler de l'eutrophisation des milieux, donc c'est-à-dire la pollution du milieu aquatique, qui fait que les algues qui vont se développer, qui vont capter l'oxygène de l'eau, ce qui va rendre impropre à la vie des poissons et de la vie marine, quoi. Et finalement, ben, on a un impact, nous, en tant que société, parce que dans les villes, on concentre de plus en plus d'humains, mais les stations d'épuration, ben, elles sont un peu en galère, et ben, au final, on rejette de plus en plus de déchets, même si on les dilue, mais au final, on rejette quand même la même quantité, voire plus, maintenant. Et ben, en fait, voilà, on s'est dit, ben, y a une boucle qui s'est ouverte entre la captation de l'azote au niveau de l'usine et puis la station d'épuration qui rejette l'azote en pleine mer. Ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer l'azote avant que ça arrive à la station d'épuration pour le réinjecter au niveau de l'agriculture ? Et finalement, ben, on arrive sur cette boucle et donc du coup, cette idée d'économie circulaire.
Et c'est peut-être ça qui est un peu au cœur, ou peut-être pas du tout, mais de ce procédé innovant que vous avez développé qui vous permet en fait de justement faire la boucle.
Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la nature, ce procédé se fait naturellement. C'est-à-dire que quand on va faire une miction, parce que quand on va faire pipi, on dit faire une miction. Donc quand on fait une miction, dans la nature, un animal, le sol va réceptionner ses urines et va les transformer, notamment l'azote et le phosphore, en des éléments qui vont être assimilables par les plantes. Ça se fait dans le sol qui est en fait un milieu extrêmement riche, où on a à la fois de l'eau, de l'air et des bactéries. Et avec tout ça, la transformation va se faire assez naturellement, va prendre un peu de temps. Donc nous, ce qu'on veut reproduire, c'est ce qui se passe dans le sol, mais à une grande échelle. C'est-à-dire qu'on va collecter des urines, on va les mettre dans un procédé et on va développer des bactéries de façon à transformer avec ces bactéries ces éléments qui sont dans les urines pour les rendre assimilables par les plantes. Et ensuite, on va fournir des engrais pour l'agriculture. Alors ça paraît simple comme ça. Travailler avec des bactéries, c'est jamais facile. S'il fait chaud, elles meurent. S'il fait froid, elles meurent. Donc il faut contrôler la température. Il y a plein d'autres paramètres à contrôler. Et on en est un peu au début. On a déjà commencé à faire des petits essais dans un aquarium pour voir ce que ça donnait. Et on est arrivé au bout d'une dizaine d'essais à faire une transformation. Donc c'est encourageant. Maintenant, on a développé un partenariat avec une université à Aix-en-Provence qui a des moyens beaucoup plus scientifiques de développer ces procédés. On a trouvé une personne qui va faire une thèse pour nous sur ce sujet-là et qui va développer précisément le procédé. Donc d'abord à petite échelle. Et on sait que dans les procédés biochimiques, quand on change d'échelle, il peut y avoir des variations. Donc on va passer d'une petite échelle 1 à 2 litres à des dizaines de litres, puis des centaines de litres, puis des milliers de litres. Et l'idée, c'est d'arriver à transformer 1 million de litres par an dans une usine à Marseille.
Des fleuves d'urine, donc, a priori, c'est à notre disposition, pardon. D'un point de vue de votre développement opérationnel, vous en êtes où aujourd'hui ? Tu dis, Emmanuel, que vous êtes en contact avec les laboratoires, l'université. Est-ce que vous avez déjà lancé une première boucle ? Est-ce que vous avez déjà des agriculteurs, des points de collecte ? Où en êtes-vous un peu de ce développement et de la R&D chez Eutil ?
Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà de collecter les urines. Parce que finalement, ça paraît assez simple, mais une urine, une fois qu'elle est diluée dans l'eau, on ne peut plus l'utiliser parce qu'elle est trop diluée et il n'y a plus d'intérêt économique. Donc, la première étape pour collecter de l'urine, c'est de trouver des endroits où on peut collecter. Et les endroits identifiés aujourd'hui, c'est d'abord tous les loueurs de toilettes sèches qui font des festivals, qui, eux, ont des urinoirs secs et qui vont collecter des urines pures. Donc on est en contact avec eux et ils sont très contents de pouvoir nous donner leurs urines parce que eux ils savent pas trop quoi en faire, et avoir un projet qui va permettre de les réutiliser, ça les intéresse. Bon, ça c'est pas très local, donc localement aussi on cherche des points de collecte, et aujourd'hui on a un projet avec les terrasses du port à Marseille qui a déjà des urinoirs sans eau, et on va essayer de collecter ces urines là-bas. Donc c'est un projet qui va se faire au printemps. Et on devra commencer à collecter ces urines assez rapidement. Une fois qu'on a collecté des urines, donc l'idée bien sûr c'est de trouver d'autres points de collecte à Marseille, d'abord dans des grands centres, plutôt pour avoir des gros volumes disponibles, et puis aller ensuite vers des particuliers, des restaurants, des lieux touristiques, pourquoi pas. Et une fois qu'on a collecté, il faut transformer. Donc là on est tout au début du projet. C'est-à-dire que nous on a fait les essais, comme je disais tout à l'heure, dans notre petit aquarium. On a commencé quelques essais au niveau de l'université et eux, ils ont vu effectivement aussi certaines problématiques qu'ils essayent de résoudre. Et là, on va commencer une thèse dans 15 jours pour, donc, ça, qui va durer 3 ans, pendant lesquels on va étudier tout ce procédé du début à la fin. Donc on est vraiment au départ de la partie procédé. Puis je vais laisser Stéphane raconter la partie agriculture qui est son domaine.
Et bah, du coup, sur la partie agricole, on a, avec nos petits essais, on a pu sortir des petits volumes et on a pu faire tester ces petits volumes par des copains qui ont des terrains agricoles ou qui font un peu d'hydroponie, ce qui nous a permis d'avoir un premier avis, on va dire, sur ce qu'on fait. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont plutôt positives, d'autres qu'il va falloir faire évoluer. Mais toute cette partie, on va dire, commerce, parce qu'à la fin, on va vendre un engrais, elle reste à développer. Et pour pouvoir la développer, il va falloir qu'on produise les volumes dont parlait Emmanuel tout à l'heure.
Ok. Et aujourd'hui, vous produisez tout ça à Marseille. Où est-ce que vous vous êtes installé?
Alors, je ne sais pas si ça se voit à la radio, mais j'étais en train d'acquiescer. Oui, tout à fait. on fait ça à Marseille. Donc là, on est toujours dans un mode un peu début de boîte, quoi. Donc, on n'a pas... On n'a pas encore des grands locaux, on n'a pas encore. Voilà, on est un peu dans la débrouille, à la fois du local, à la fois des quantités, à la fois de tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure où on fait des boucles, la boucle grandit. Et donc, on a des espaces de plus en plus grands. Ça reste à Marseille.
À terme, votre activité, c'est des entrepôts avec des points de collecte, vraiment toute une chaîne de logistique.
Tout à fait. On parle de filière même. Ouais. On discute avec pas mal d'acteurs de collectivités et tout ça, et eux, ce qui les intéresse, c'est de voir des filières se créer, parce que pour les collectivités, c'est un atout d'avoir des filières, donc, parce que ça veut dire de l'emploi, mais c'est aussi toute la boucle, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a un impact à la fois sur la collecte, on a un impact à la fois sur l'engrais, on a un impact sur les systèmes d'assainissement, donc en fait, on est en train d'essayer de changer un petit peu c'est un peu un grand mot, on change la société, mais on est en train de montrer qu'il est possible de faire d'autres choses et que c'est viable. Et que c'est viable à la fois économiquement, écologiquement.
C'était ma prochaine question sur le modèle économique. Pardon. Parce que c'est toujours, très bien amené. C'est toujours agréable et positif de voir des projets qui réussissent à s'ancrer aussi dans une forme de rentabilité. Donc c'est un peu ma question. Comment en fait ça fonctionne l'économie d'un projet comme Eotil?
Alors, une fois de plus, on va rester assez humble et près de l'humus, de la terre, de l'humus, pardon. On est sur le début, donc pour l'instant on travaille beaucoup sur de la subvention. On est pas mal accompagné, on a un peu d'argent aussi qui est rentré par des petits investisseurs pour l'instant. L'idée c'est quand même qu'à un moment on puisse dégager du chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires va se faire notamment par la vente de l'engrais, mais on espère aussi avoir un peu de conseils sur les parties d'assainissement, de comment on peut changer un habitat pour rendre compatible avec des toilettes sans eau. Donc avec les économies qui vont aller avec, à la fois de l'eau, à la fois d'énergie, à la fois, enfin voilà, donc il y a un peu toute cette réflexion qu'on mène. Sur le papier, on a un truc qui a l'air de tourner à peu près. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est des boucles qui grandissent à chaque fois, et donc on va se confronter aussi à nos incohérences à des moments, mais on aura le temps de corriger le tir avant que ce soit trop gros pour que ce soit trop tard. Donc cette façon de faire est plutôt pas mal, quoi.
Oui, moi je me pose une question par rapport à tout ce qu'on peut retrouver dans l'urine humaine. Je pense par exemple aux médicaments. Enfin voilà, on nous parle souvent de polluants éternels. Et du coup, je me pose la question de la facilité de traitement en fait de ces urines. Et en fait, j'avoue, j'ai aucune connaissance dans ce domaine. Donc je me demande comment on fait pour traiter ça et pour que ce soit après certifié et utilisable pour l'agriculture.
Alors moi j'aime beaucoup cette question parce qu'on nous la pose très souvent. J'ai l'impression que c'est la première barrière psychologique, en fait, elle est là. C'est est-ce qu'on peut utiliser de l'urine pour faire de l'engrais, ou est-ce que je ne pourrais plus jamais manger mes tomates parce que je ne sais pas quoi. En fait, oui, il y a des polluants, il y a des éléments, des molécules qui sont indésirables dans nos urines que nous, on souhaite traiter. Hein. Évidemment, on est en train, dans le procédé qu'on met en place, on disait qu'il y avait des innovations et on travaille notamment là-dessus, même s'il existe déjà des choses qui permettent de traiter globalement ces éléments-là. Mais ce qui est surtout hyper intéressant, c'est de comparer ça à ce qui se fait aujourd'hui, aux engrais qu'on utilise aujourd'hui. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de l'azote. Maintenant, je vais parler un peu plus du phosphore. Le phosphore, c'est une ressource minière. Donc on creuse dans une mine qui est principalement une mine au Maroc. Et on nous dit que d'ici quelques années, la demande va dépasser l'offre. Donc c'est-à-dire qu'on va, on va être en galère là-dessus. Donc il y a un vrai problème sur la quantité de phosphore. Mais déjà aujourd'hui, le phosphore qu'on utilise, qui est sorti de ces mines, alors je ne sais pas si c'est le procédé d'extraction ou si c'est la mine elle-même, mais on ne le sort pas tout seul. On le sort aussi avec des métaux lourds, notamment le cadmium. Et là, j'entendais des gens de l'INRAE, là, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, qui disaient que, en fait, aujourd'hui, les sols français, on a l'impression qu'on les traite plutôt pas trop mal par rapport à d'autres, mais en fait, on a quand même beaucoup de métaux lourds. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les engrais qu'on utilise aujourd'hui sont déjà des engrais, pas dangereux, mais qui comportent des éléments pas forcément bons. Mais nous, comme on vient avec une solution basée sur l'urine, il y a toute cette... cette psyché autour de, ben, en fait, c'est le caca, c'est les déjections, c'est le... Et donc, forcément, c'est pas bon. Et en vrai, ben, je suis pas sûr qu'on fasse pire, voire je pense qu'on fait déjà mieux. Et en fait, comme disait tout à l'heure Emmanuel, les bactéries du sol, elles sont habituées à traiter ce qui passe dans nos urines. Alors, les bactéries du sol, elles sont pas forcément habituées à tous les médicaments qu'on a créés depuis quelques dizaines d'années. Mais, toujours est-il qu'elles sont capables de décomposer beaucoup de choses. Donc on sait, donc il y a quelques articles dans la littérature scientifique qui disent qu'en fait aujourd'hui, ben, si on met de l'urine au champ, finalement il y a peu de problèmes. Là où il peut y avoir des problèmes, si c'est de l'urine non traitée, c'est si on met directement sur un fruit ou... Bon, je parlais de la tomate tout à l'heure, c'était, effectivement ça peut être un vrai sujet. Mais nous on va s'attaquer à ce problème-là pour éviter d'avoir ce genre de critiques, mais il faut savoir que ce qui existe aujourd'hui n'est pas forcément mieux, quoi.
Est-ce que vous comptez récupérer l'urine des hommes qui pissent dans la rue ?
Alors, il y a eu des très beaux projets qui ont été faits pour récupérer l'urine des gens qui pissent dans la rue, parce que, notamment à Montpellier, nous avons des confrères qui faisaient beaucoup la fête au centre-ville et qui trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'urinoirs et qui ont créé des urinoirs, d'abord au départ, qui mettaient sur des gouttières pour déjà éviter que les gens pissent n'importe où. Mais l'idéal, ce serait que les collectivités passent des accords avec des loueurs ou équipent les centres-villes ou les endroits où on fait la fête avec des toilettes et des urinoirs secs, de façon à pouvoir collecter ces urines, et nous, on serait tout à fait partant pour les réutiliser.
Et j'imagine qu'il y a forcément une complémentarité avec l'activité que toi, tu avais déjà sur les toilettes sèches à séparation. Peut-être vous appuyez aussi sur cette logistique et l'existence de cette entreprise-là ?
Oui, c'est évident. Hein. En faisant des toilettes sèches, c'est un monde qui est tout petit, donc on connaît tous les acteurs français, même européens. Et il y a beaucoup de demandes sur le traitement des urines. C'est aussi ce qui m'avait fait réfléchir, et c'était un peu le départ de notre projet avec Stéphane. Mais c'est évident que eux, ils sont tous ces loueurs, ils collectent quasiment déjà l'équivalent des volumes dont on a besoin pour faire fonctionner économiquement notre activité. Parce que, en fait, dans une activité comme la nôtre, les machines vont coûter cher. Donc on traite peu de volume ou beaucoup de volume, finalement, ça va nous coûter presque la même chose en investissement. Donc c'est pour ça qu'on a regardé avec l'investissement qu'on devait faire, combien de volume on devait traiter. Et ces 1000 mètres cubes, en gros, correspondent à l'équilibre économique de notre activité, sont aussi à peu près la quantité d'urine collectée par les loueurs de toilettes sèches.
Collectée en 2022, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, on avait fait l'étude.
Ouais, parce que les volumes grandissent tous les ans, parce que c'est des activités qui se développent aussi, quoi.
Vous donnez le chiffre de 1 million de litres, ce qui est beaucoup, mais peut-être assez peu finalement à l'échelle de la production d'urine française.
Alors, je sais pas. Si juste je peux donner un élément de comparaison pour savoir, 1 million de litres, c'est l'équivalent de 2000 personnes dont on récolterait les urines tous les jours pendant un an. Voilà. Donc c'est beaucoup et en même temps pas tant que ça. Alors, on est à Marseille, on est déjà 1 million d'habitants, enfin plus d'un million d'habitants, et en fait... 2000 personnes, c'est rien, quoi. C'est une goutte d'eau là-dedans.
Je ne sais pas si c'est quantifiable la quantité d'engrais qu'on peut produire à partir de ça, j'imagine.
Alors, nous, les calculs qu'on fait, c'est qu'il y a quand même une grosse réduction, parce que, alors, je rentre un tout petit peu dans la technique, pour être considéré comme un engrais, il faut avoir une certaine concentration dans les nutriments, donc l'azote, le phosphore dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, cette concentration nous oblige, nous, à concentrer les urines à la fin de notre procédé. Donc c'est un coût, c'est tout ça, mais ça permet de dire que ce qu'on fait, c'est un engrais et pas autre chose, un amendement ou autre chose. Mais de nos 1000 mètres cubes d'urine initiale, on va faire à peu près 70 mètres cubes d'engrais. Voilà. Et pour donner un ordre de grandeur, parce que c'est pas facile de voir ce que ça veut dire en termes d'engrais, on dit qu'aujourd'hui on met 160 unités d'azote par hectare. Donc ça, c'est la loi qui permet d'aller jusque-là dans nos champs. Et avec les urines, avec ces 70 mètres cubes d'engrais, on fait à peu près 2000 hectares. Voilà, donc 2000 personnes, ça donne 2000 hectares.
Je ne me rends pas compte, mais est-ce qu'on peut estimer que la totalité des urines produites en France pourrait couvrir les besoins de la totalité des territoires agricoles français ?
Alors, pas tout à fait. Il y a une étude qui s'y a été faite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un laboratoire qui s'appelle le LESU à l'École des Ponts et Chaussées à Paris qui a développé un programme qui s'appelle OCAPI, qui permet de regarder toutes les valorisations possibles des excréta humains. Et eux, ils disent que si on collectait l'urine de tous les Français, on pourrait avoir 80% des besoins en engrais qu'on utilise aujourd'hui en France. Donc, ce n'est pas tout à fait 100%, mais c'est déjà 80%.
80% qui donc réduisent aussi l'empreinte carbone des agriculteurs, qui permettent de dépolluer les sols et les eaux.
Alors, sachant qu'il y a aussi tout un aspect, on réutilise déjà beaucoup les excréments de vaches, de cochons, etc., qui sont déjà réutilisés. Donc en fait, ça permettrait juste d'aller encore un peu plus loin, quoi.
Est-ce que les procédés que vous utilisez et la matière première elle-même permettraient à cet engrais d'être certifié en agriculture biologique ?
Alors, c'est une super question aussi. C'est un sujet sur lequel on a essayé de plancher un peu. L'agriculture biologique aujourd'hui, elle définit beaucoup de choses de ses pratiques. Et il y a une chose qui est définie au niveau européen, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre dans un champ pour dire que c'est acceptable en agriculture biologique. Et tout ce qui est considéré comme engrais ou amendement pour l'agriculture bio, c'est défini sur une liste de l'Union européenne. Et cette liste, si c'est pas dedans, eh ben on n'a pas le droit. Et dans cette liste, on retrouve tout ce qui est donc résidus d'élevage, donc tout ce qui est reste d'os, de plumes, de sang, de cornes, de tout ce que vous voulez, de tous les excréments, donc tous les lisiers, de porcs, de vaches, etc. Et en fait, un peu tous les résidus d'élevage. Alors après, la question. Je vais y répondre très vite, mais c'est est-ce que l'humain en ville peut être considéré comme un élevage ? Donc malheureusement, je pense qu'on est un peu dans une zone un peu grise et qu'on ne peut pas trop aller là-dedans. Mais on travaille, nous, de notre côté, avec la FNAB, donc la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, qui font un plaidoyer, eux, auprès de l'Union Européenne, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet en bio, c'est qu'il manque d'engrais. Et donc comme il manque d'engrais, il faut trouver des moyens de compléter et... Les excréments humains font partie des solutions qui sont envisagées par la FNAB, mais pour ça, il faut que ça puisse évoluer au niveau européen. Donc il y a besoin de passer quand même quelques étapes.
Et en fait, on voit bien que cette certification d'agriculture biologique, c'est un levier, j'imagine, c'est un levier de vente auprès des agriculteurs. Est-ce que d'un point de vue économique, vous seriez placé, enfin, est-ce que votre solution, est-ce qu'en fait, en faisant les choses un peu mieux comme vous le faites, on arrive à être moins cher que de l'engrais, ou alors à l'équilibre par rapport à de l'engrais moins écologique ?
En fait, il y a un prix, on dit toujours que les engrais valent tant, c'est un prix qui est donné par un marché international. Sauf que ce prix, c'est le prix des engrais départ usine dans les grosses usines. Et si vous achetez des volumes énormes, vous avez à peu près les prix proposés. Dès que vous allez prendre des plus petits volumes, vous allez avoir des prix beaucoup plus élevés. Et on ne peut pas acheter directement chez le fabricant. Donc avec tous les intermédiaires, finalement, les prix vont varier énormément d'un agriculteur à un autre. Une grande coopérative de céréaliers de la région parisienne va avoir des prix d'engrais qui sont complètement différents de petits maraîchers de la région sud. Donc en fait, nous, notre cible, c'est de pouvoir vendre localement les engrais et donc plutôt à l'agriculture locale qui est essentiellement du maraîchage, de l'horticulture, des choses comme ça, donc qui sont des petites exploitations et qui, eux, payent les engrais très cher. Et donc, sur ces marchés-là, on pense qu'on peut être compétitif. Pas sur les marchés des grands céréaliers. Et puis par ailleurs, l'autre marché qu'on vise, c'est celui des collectivités. Donc les collectivités achètent des engrais pour les espaces verts, les terrains de sport, etc. Et eux, ils passent par des marchés publics et ils les payent aussi très cher. Et donc là aussi, sur ces marchés-là, on peut être compétitif.
Ok, vous avez votre carte à jouer, alors ça fait plaisir d'entendre. Savoir qu'on peut être compétitif en faisant les choses localement et doucement. Je vous propose qu'on prenne une petite respiration musicale. Il est 19h33. Vous nous avez soumis un morceau. Est-ce que vous avez envie de nous l'introduire avant qu'on l'écoute ?
Alors, il y a une histoire quand même dans cette fondation de l'entreprise. C'est que Emmanuel et moi, on s'est rencontrés au même endroit qu'on t'a rencontré, Jeanne, c'est-à-dire dans une fanfare.
Je ne savais pas.
Et en fait, c'est un morceau qu'on joue dans la fanfare et que j'aime beaucoup.
très dur à jouer.
On aime tous beaucoup.
Oui. On écoute We Will Fall Together. The beaten and the bruised. Vous êtes bien dans l'émission de la forêt des possibles, petite blague, par rapport aux personnes qu'on reçoit ce soir. On est avec l'entreprise Eotil qui collecte les urines pour les transformer en engrais écologiques pour les agriculteurs. On vient de s'écouter une petite chanson issue de votre fanfare, n'est-ce pas ? Une fanfare marseillaise, si je ne m'abuse. Je voudrais vous proposer un petit exercice de projection avant d'aborder la partie tout de l'émission, qui est plutôt centrée sur les problématiques sociétales auxquelles Eotil permet de répondre. Donc je vais vous demander de fermer les yeux. Si on se projetait, Stéphane, Emmanuel, en 2040... Pardon. Mettons que la transition écologique a fait un pas de géant. Jean Covici a pris sa retraite, enfin. Le sentiment du devoir accompli. La France s'est par exemple dotée d'un budget. Tout le monde a retroussé ses manches, les jeunes, les anciens et celles et ceux qui sont entre les deux, pour incarner un modèle de société enviable, juste pour tous et pour toutes, où résonnent les rires joyeux de nos enfants. J'aimerais que vous puissiez visualiser, la forêt n'est plus qu'une image qu'on file dans ce studio de semaine en semaine, mais c'est une réalité palpable, elle est dans nos villes et elle est autour de nous. Emmanuel, Stéphane, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu ce que vous voyez ? J'imagine que peut-être le paysage urbain, il est méconnaissable. Les bruits, les sensations et les odeurs peut-être sont différentes. Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous pourriez nous décrire votre vision d'un 2040 à Marseille ?
Moi, je vois ça assez, assez végétal. Moi, je pense qu'il y a un vrai retour à une symbiose avec la nature et qu'on est beaucoup plus, plus à l'écoute de, à la fois de nos corps individuellement, mais aussi de comment on respire avec, avec ce qui nous entoure. Et donc, du coup, alors, peut-être je biaise un peu parce qu'on est censé suivre des toilettes, mais je vois un truc où on est... On n'a plus des réseaux dans tous les sens qui se chevauchent et qui font des trucs qui finissent par être absurdes. Mais on a un peu simplifié cette équation, quoi. On est vraiment efficace, mais sans fioriture, quoi.
Ah, moi, je pense qu'il y aura encore des réseaux. En fait, je pense que les réseaux d'assainissement seront en partie transformés pour faire des urinoducs, c'est-à-dire... finalement, des tuyaux qui transportent les urines vers des usines de fabrication d'engrais pour des agricultures locales qui seront même probablement dans les villes. J'imagine la relocalisation de l'agriculture encore plus proche des villes, voire à l'intérieur des villes, sur les toits. On peut mettre des panneaux solaires, on peut aussi mettre des jardins pour nourrir les habitants. Et moi, je suis assez d'accord avec Stéphane sur le fait que la nature va reprendre un peu possession dans les villes. Parce que finalement, si on veut un monde avec moins d'énergie, ça veut dire forcément moins de transport, donc revenir à des échelles locales et remettre l'humain au centre de ces échelles.
Comme disait Jeanne, il y a aussi un côté énergétique et je pense que d'avoir plus de végétation, ça permet aussi de plus tamponner par exemple sur les températures. Je vois ici à Marseille, l'été il fait hyper chaud, mais peut-être que si on avait des canopées comme on utilisait dans la métaphore, mais on aurait aussi des espaces d'ombre, donc de frais. Permettrait aussi de plus vivre agréablement dans ces périodes-là, quoi.
Est-ce que en 2040, vous voyez encore Eotil dans le paysage ? C'est quoi votre avenir un peu rêvé ? Je dis ça parce qu'il y a des structures dont le but est de disparaître à la fin.
Ah non, pour nous, c'est clair que c'est pas de disparaître. Non, notre idée, c'est plutôt de commencer à montrer qu'un système comme on le pense peut être viable à Marseille, c'est-à-dire avoir un toute une filière qui part de la collecte, du traitement et de la réutilisation locale et ensuite de dupliquer cette usine dans d'autres villes en France et ailleurs en Europe de façon à ce que chaque ville puisse, en fonction de son modèle agricole, de sa population et de son organisation, trouver un moyen de récupérer ses urines et de faire des fertilisants avec.
Je pense que ce qui est vraiment important pour nous, c'est de garder cette dimension locale. Je pense que le grand délire actuel, c'est qu'on fait trop voyager les personnes, les biens, en fait on peut faire des choses à nos échelles qui sont tout à fait acceptables et je pense que si on arrive nous à faire notre modèle, comme dit Emmanuel, c'est le meilleur, c'est de le dupliquer parce que c'est comme ça qu'on arrivera à garder cette échelle locale tout en touchant plus de monde, quoi.
Là je trouve que en ce moment la plus grosse aberration qui va à l'inverse de ça, c'est que comme disait Stéphane, on utilise beaucoup de gaz pour faire des engrais notamment azoté, pour capter l'azote de l'air. Ce gaz venait essentiellement de Russie. Maintenant, il y a des pénuries de gaz sur le gaz russe, donc on a plus de mal à avoir de gaz. Donc finalement, les usines de fabrication d'engrais qui étaient en France, en Allemagne, sont fortement arrêtées. Je crois qu'il y a 65% des capacités européennes de fabrication d'engrais qui sont arrêtées. Donc il faut qu'on en importe. Et comme il n'y a pas d'embargo sur les engrais russes, en fait, on l'importe de Russie. Hein? Donc au lieu d'importer du gaz par un tuyau, on importe des engrais par camion, par bateau, par train. Donc on transporte encore plus de choses. Voilà, donc c'est vraiment se mettre à l'opposé de ça et revenir au maximum à des choses locales.
Ouais, le bien fondé du local, il n'est plus vraiment à prouver. Après, il y a quand même un enjeu de bascule et d'échelle pour pouvoir avoir un peu cet impact écologique, enfin, en tout cas réduire complètement la voilure sur toutes les émissions. Est-ce que ça pose des, enfin, j'imagine que ça pose des enjeux de coopération au sein de la filière. Comment elle est cette filière aujourd'hui des collecteurs d'urine? Est-ce que la coopération, est-ce que vous connaissez des entreprises qui font un peu pareil? Est-ce que vous vous entraidez, vous partagez des méthodes?
Alors au niveau du réseau national qui s'appelle le réseau de l'assainissement écologique, on échange beaucoup sur ces sujets avec d'autres acteurs, mais il y a peu d'acteurs aujourd'hui. Et nous au niveau local, avec le projet des terrasses du port, on a aussi développé des partenariats avec des acteurs, notamment un acteur sur la logistique et un acteur sur toute la partie modification des bâtiments. Donc c'est un gros acteur national qui fait de la maintenance des bâtiments et qui est d'accord pour nous accompagner sur cette première installation. Et lui, à terme, ce qu'il veut faire, c'est, dans les autres installations dont il s'occupe, c'est proposer notre projet de collecte d'urine, et ça nous permettra aussi de nous développer localement, voire à une échelle nationale, quand on fera des usines dans d'autres villes.
Après, si on parle de la filière dans son intégralité, donc il y a toute cette partie collecte, effectivement, la transformation, il faut proposer des solutions, donc... Il y a déjà d'autres entreprises qui existent ou qui se créent, donc ce qui va permettre aussi, donc ce que je disais un petit peu hors micro tout à l'heure, mais de diversifier un peu l'offre et les possibilités pour les différentes collectivités. Mais après, il y a aussi tout l'usage. Et en fait, je pense que, comme je disais, on déplace beaucoup de gens, de choses aujourd'hui. Et enfin, je travaillais dans la banane, donc on mangeait de la banane qui venait pas de France, qui venait d'Afrique. Parce qu'on n'en produit pas de la banane en France. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des régimes alimentaires qui soient suffisamment intéressants, parce qu'on peut le faire à échelle locale. C'est-à-dire juste, il faut, au lieu de faire ce qu'on a fait il y a quelques dizaines d'années, de spécialiser nos régions énormément en mettant l'élevage dans le nord-ouest, les cultures, les grandes cultures dans les grandes plaines, etc. Mais est-ce que finalement de ne pas revenir à quelque chose où c'est un peu plus mixé, avec un peu d'élevage, un peu de culture, un peu de maraîchage, un peu de fruits et légumes, etc. À un niveau local, enfin, on peut retrouver aussi des choses très intéressantes. Et je pense qu'il y a cette réflexion-là qu'on a du mal à mener un peu aujourd'hui, alors même s'il y a quand même pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens-là, mais je trouve qu'on n'a pas encore passé ce point de bascule.
Effectivement, tu parlais de la possibilité de collaborer avec un installateur, enfin, quelqu'un qui change les bâtiments, j'imagine, pour pouvoir avoir un peu plus de force de frappe et d'argumentaire auprès de ses partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup sensibiliser à la fois les lieux qui pourraient devenir demain des lieux de collecte ou des agriculteurs de l'autre côté qui pourraient être réticents à utiliser ces engrais-là? Est-ce que les gens sont prêts pour vous, ou est-ce qu'il y a tout un travail qui reste aussi à mener sur la sensibilisation?
Alors, je suis normand, donc je vais faire une réponse de normand. C'est un peu des fois oui et des fois non. En fait, il y a des gens qui sont très convaincus. Alors, on parlait tout à l'heure du projet Terrasse du Port, qui ont un directeur technique qui, en fait, on lui a présenté le projet, il a dit « Allez, on y va, et vous mettez en ordre de bataille, vous faites le truc, quoi ». Il n'y a pas eu de débat. Enfin, voilà. Et après, il y a des gens où il faut leur expliquer en long, en large, en travers, parce que, enfin, ils vont voir tous les problèmes. Ils vont voir tout ce qui peut les bloquer, etc. Et on a la même chose côté agriculteur. Hein. Il y a des agriculteurs qui sont en bio et qui nous disent, bah, moi, envoyez-moi vos trucs. Hein. Je m'en fous de mon agrément bio. Ce que je veux, c'est faire un truc logique dans ma production. Puis il y en a qui sont là, non, mais attention. Est-ce qu'en termes de conformité sanitaire, est-ce que ce qui est une bonne chose, hein, de se poser ces questions, hein, je le dis pas, mais donc on a un peu de tout, on a un peu ces deux aspects, et pour l'instant on focalise un peu sur les personnes avec qui on avance, parce que c'est plus simple au départ, mais je pense qu'il y a aussi un effet d'entraînement, il y a un effet de le voisin le fait, donc c'est que ça doit pas être si pire, et voilà, on va essayer d'aller vers ça, quoi.
Et j'imagine qu'il y a un plaidoyer qui reste à construire aussi, et c'est tout l'intérêt de la coopération de tous les acteurs de la filière. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez des freins opérationnels ou même des freins politiques au développement de votre activité, à votre échelle, mais peut-être plus largement aussi?
Alors bien sûr, on a des freins. Aujourd'hui, c'est un procédé qui n'est pas connu. On pense qu'on a 3 ans de recherche pour le développer, donc pendant 3 ans, il faut qu'on vive. Donc moi, j'ai une société, puisque je continue à fabriquer des toilettes sèches à séparation, donc je peux avoir des revenus. Stéphane, lui, il est à temps plein sur l'activité, donc il faut lui trouver des financements. On a une personne qui travaille pour nous, qui fait une thèse au laboratoire, donc tout ça, il faut le financer, il faut financer le matériel d'essai, donc c'est pas facile de trouver de l'argent. On passe beaucoup de temps à chercher des fonds, à chercher des subventions, à chercher des partenaires financiers. Donc ça, c'est un frein au développement technique, hein, et je pense qu'aujourd'hui, notre principale activité, c'est de trouver de l'argent pour passer ces 3 années de recherche. Voilà. Ensuite, il y a tous les freins psychologiques. C'est-à-dire que, comme disait Stéphane tout à l'heure, quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit on a fait de l'engrais à base d'urine, est-ce que vous voulez l'utiliser? Il va avoir plutôt des réticences. C'est pas quelque chose qui est encore passé dans la culture, même si petit à petit ça vient. Et notamment, on a un autre acteur dans le secteur qui fait beaucoup de communication sur l'utilisation de l'urine en agriculture et qui, depuis plusieurs années, fait passer des messages. On voit que petit à petit, les freins tombent ou se réduisent un petit peu. Mais le frein psychologique est un frein très important.
Puis après, politiquement, c'est pas un sujet sexy, hein. On parle d'urine, quoi. Donc, on en avait discuté un petit peu avec la mairie de Marseille par rapport aux écoles. Et ils disaient, en fait, c'est pas un sujet sur lequel on peut y aller facilement, mais il y a quand même un intérêt parce que y a un sujet autour des toilettes à l'école. On parlait tout à l'heure des toilettes publiques parce qu'il y a peu de toilettes publiques, etc. En fait, tous ces sujets-là sont un peu tabous, mine de rien. Et en fait, on se rend compte que, amener le sujet sur la place publique, c'est aussi un peu casse-gueule, quoi. Donc, c'est pas si évident que ça de traiter ces sujets, quoi.
Ouais, et puis vous êtes un peu tout seul sur le créneau. C'est dur aussi de faire entendre cette voix-là. Mais sur la question de est-ce que les urines, c'est sexy, il y a toute la question des imaginaires qui est un sujet très fort de l'écologie et qui est développé aussi notamment par le Shift Project. Comment en fait rendre ces futurs souhaitables par des imageries qui pourraient nous parler et qui pourraient juste pas forcément ressembler à un film catastrophe comme tous les films qu'on voit depuis qu'on est des enfants. Est-ce que vous pensez que l'urine, ça peut devenir cool si on change un peu le récit, si on renverse le paradigme?
Moi, je pense que oui. Par exemple, c'est le directeur technique des terrasses du port. Il nous a dit, moi, votre projet, il m'intéresse aussi parce que je veux faire de l'agriculture urbaine sur les toits des terrasses du port. Et donc, vous allez collecter les urines chez moi, vous allez les transformer en engrais. Et ensuite, je vais vous racheter les engrais parce que je veux que les engrais que j'utilise sont des engrais issus d'un déchet des terrasses du port. Pour lui, ça a vraiment un sens. Il trouve que c'est très important. Donc, je pense qu'il y a plein de choses comme ça où en montrant cette vraie circularité, ou même il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle L'urine, leur liquide au jardin. Par Renaud Deleuze. Oui. Ce livre explique comment, avec sa propre urine, on peut fertiliser son potager. Donc, ça peut se faire à petite échelle. On ne peut pas y prendre les urines comme ça parce que ce n'est pas facilement assimilable par les plantes. Mais c'est aussi un moyen de commencer à se familiariser avec son urine et de se familiariser avec l'utilisation de sa propre urine dans son potager ou dans son jardin.
Non, mais même l'urine est déjà cool sur plein d'aspects. Enfin, je vois, on parlait tout à l'heure de fanfare, on parlait de festival et de loueurs de toilettes sèches. On a eu l'occasion d'aller dans un festival de fanfare où il y avait des toilettes sèches. Et ils avaient fait toute une installation sur les urinoirs pour les mecs, où en fait c'était des urinoirs secs avec des LED à l'intérieur, avec de la lumière qui bougeait, etc. Mais enfin, c'était la teuf aux toilettes, quoi. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc ça peut déjà être cool, en vrai.
Ouais, si jamais il y avait un message qui était affiché, qui expliquait aussi que l'urine que tu t'apprêtes à déposer là va demain fertiliser les sols des agriculteurs du coin. Oui, mais c'est un petit peu là que les marketeurs, marketeuses peuvent nous aider à essayer de réinventer un peu ce récit autour de...
C'est sûr.
Du corps humain qui finalement devient une machine qui produit un fluide super, super positif pour la planète, en fait.
C'est une histoire de chaîne on parle toujours de la chaîne alimentaire avec soi-disant l'homme tout en haut, etc. En fait, c'est une chaîne, donc en fait, ça tourne. On est encore dans l'économie circulaire. On parlait des bactéries qui transforment l'urine dans le sol. Mais finalement, nous, on a consommé des animaux, on rejette ces éléments-là, ou des animaux, des plantes. On rejette des éléments, les bactéries, elles vont permettre aux plantes de se nourrir. Et puis, en fait, derrière, le cycle continue, quoi. Donc, c'est un peu la même chose, quoi.
Mmh. Oui, et puis nous, on est des techniciens, comme on l'a dit. Le marketing, c'est pas trop notre truc. Donc, si on avait des personnes qui étaient intéressées pour nous faire du marketing, pour rendre l'urine sexy,
si on prenait ce sujet et qu'on le traitait comme, si on regardait tout le marketing qu'il y a autour de l'essence, par exemple, et du gasoil, si on transformait un peu cet imaginaire et qu'on le calquait, tu vois, pour faire de l'urine une espèce de ressource hyper précieuse et dont on dispose quasiment illimité, enfin, au moins une fois par jour, peut-être. Je sais pas. Écoutez, on appelle aux auditeurs, aux auditrices, si jamais des personnes motivées pour essayer de changer un peu le regard sur ces pratiques. Je regarde Claire, dont c'est un peu le travail en régie. On arrive un peu vers la fin de l'émission et le dernier mot, quasiment avant-dernier, est toujours un peu pour les invités. Est-ce que vous avez une actualité à partager, quelque chose que vous voulez dire, un message, une dédicace?
Alors oui, on a une petite actualité, c'est que le 26 février, on va faire la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Holy Shit, qui a été réalisé par une personne au nom espagnol que je n'oserais pas prononcer pour ne pas l'écorcher. On fait ça à La Ruche, à Marseille, donc au boulevard National, là. Et donc c'est une conférence débat, enfin ciné-débat, donc on diffuse le documentaire et on enchaîne avec quelques échanges avec les gens qui seront présents pour voir un peu justement comment ils voient la suite des événements vis-à-vis de ce qu'on fait de nos excrétas, un peu de ces imaginaires, quoi, en fait.
Ok, écoutez, 26 février, Holy Shit, qui apporte un peu cette notion de sacré sur des choses qu'on préfère cacher généralement, à savoir les déjections. Merci beaucoup Emmanuel, Stéphane, d'avoir été là.
Pour les
auditeurs et les auditrices, c'était Éotil. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet, sur LinkedIn. Éotil qui transforme le corps humain en unité de production au service de nos sols et de nos agriculteurs, agricultrices, et le tout sans effort. Bravo à vous deux pour l'équilibre trouvé là-dedans. Et bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec l'association We Take Care. On a un petit peu d'avance, mais on rend l'antenne. Bonne soirée à tous.